Place Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Augustin Arrivé.
Bonsoir à toutes et à tous, les informés de Noël. On termine la semaine ensemble sur France Info, 23e journée d'une grève qui n'en finit pas, certes, mais qui régresse apparemment. 8,5% de grévistes aujourd'hui d'après la direction de la SNCF. Demain sera une nouvelle journée de manifestation à l'appel de l'intersyndicale. Le gouvernement joue le pourrissement. Est-ce qu'il est en train de réussir son pari? Vous allez nous donner votre avis dans un instant, Sylvain Boulouk. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes historien, spécialiste des mouvements sociaux. Je cite tout de suite votre dernier livre, « Mensonges en gilets jaunes », c'est paru le mois dernier. À vos côtés, Nasser Khétan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le directeur général de la radio Beurre FM. Et puis, merci également d'être avec nous, Roselyne Fèvre, bonsoir.
Bonsoir.
Responsable du service politique de la chaîne France 24, tous ensemble. On évoquera également le retour éventuel d'une vitesse maximale de 90 km. Heure au volant sur les routes secondaires. Ce sont les départements qui choisiront qui va s'y risquer. Et puis, ces archives télévisées de l'écrivain Gabriel Masneff qui expliquait sans gêne, face caméra, son attirance pour les adolescentes. Archives qui resurgissent à l'occasion de la parution du témoignage d'une des mineures qu'il avait séduite à l'époque. Au-delà de ce cas précis, ce qui frappe, c'est le contraste avec notre regard actuel. Les informés, c'est parti. Allez, commençons par cette grève. 6 TGV sur 10 ce week-end, entre 45% et 50% assurés lundi et mardi. On tombera à 35% le 1er janvier et de nouveau un TGV sur 2 jeudi prochain. C'est SNCF Voyage qui a publié ses prévisions cet après-midi. On a dépassé déjà le nombre de jours de grève de 1995. Ce mouvement continue contre la réforme des retraites. Mais le petit refrain qui revient dans la bouche du gouvernement et de ses soutiens ces derniers jours semble plutôt relativisé. Et tout cela. Écoutez Lionel Causse, député La République En Marche des Landes. Il était à l'invité du 8h30 France Info ce matin et il critiquait la CGT.
Je trouve qu'elle n'est pas responsable en ce moment. La CGT devrait participer un peu plus aux discussions, aux négociations, que de se radicaliser comme ils le font. Ce projet, ils n'en veulent pas. C'est-à-dire qu'en gros, moi je leur dis, ben, vous êtes OK avec toutes les injustices du système actuel. Vous voulez pas qu'on avance, vous voulez pas qu'on porte ce projet de société. Venez, dites-moi, moi je préférerais que la CGT vienne et me dise, oui, il faut que le système actuel règle le problème du million de retraités qui vit sur le seuil de pauvreté aujourd'hui. Oui, il faut qu'on travaille peut-être plus vite sur les retraites agricoles. Oui, il faut qu'on travaille plus vite sur les femmes seules, certaines carrières un peu en difficulté, que de nous dire non, il faut pas toucher au régime spécial de la SNCF ou de la RATP. Parce qu'en fait, on en est là. On est sur une petite minorité, je dirais, de salariés en France. Les gens ne sont pas en grève en France.
Le député à La République En Marche, Lionel Causse, élu donc des Landes, avec Marie Bernardeau sur France Info. Les gens ne sont pas en grève en France, cette petite phrase voilà, qu'on vient d'entendre. Est-ce que vous diriez la même chose, Sylvain Boulouk? À Paris, c'est vrai, c'est très visible avec la RATP qui bloque le métro. Mais vraiment, on a affaire à une petite minorité de salariés?
En tant que tel, les gens ne sont pas en grève en France, puisque effectivement, il y a une minorité, il y a 10% de personnes selon la direction de la SNCF qui est en grève. D'après ce qu'on peut voir des sondages, c'est le sentiment de grève, alors peut-être pas par procuration, mais d'empathie vis-à-vis de cette grève est quand même au-delà des 50%. Donc c'est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît au premier abord. Et la deuxième chose, là, dans ce qu'on vient d'entendre, c'est qu'on est dans le jeu habituel des déclarations de mise en accusation des grévistes qui sabotent le projet gouvernemental. Et donc après, il y aurait la réponse inverse qui serait ils veulent pas nous écouter. Donc à partir de ce moment-là, on ne peut pas ne pas continuer la grève. Hein. On est vraiment dans un face-à-face avec une grève qui s'effiloche parce que justement, on est dans la période des fêtes et que c'est plus compliqué de mobiliser quand il n'y a absolument personne et que la majeure partie des gens ne sont pas parisiens. Alors c'est vrai que c'est vraiment plus une grève qui touche pour l'instant essentiellement Paris et la région parisienne. Ailleurs en province, c'est pas le cas du tout. Hein.
Oui, vous associez directement le taux de grévistes avec le taux de sympathie que peut avoir cette grève auprès des Français.
On est quand même au bout de la troisième semaine, plus de la troisième semaine de grève. Hein. Ça va être une des grèves les plus longues dans l'histoire de la RATP et de la SNCF. Et au bout de plus de trois semaines, on constate que le taux de sympathie de la population reste relativement élevé puisqu'il est encore majoritaire. Ça a quand même même si ce ne sont que des sondages, ça a quand même ça traduit une réalité. C'est-à-dire qu'il y a une hostilité d'une part importante de la population au projet de réforme tel qu'il est annoncé actuellement par le gouvernement, avec peut-être une inquiétude réelle d'une grande partie de la population sur ce fameux point et peut-être même sur le projet à plus long terme avec
la retraite par point. Roselyne Fèvre, le fait que c'est vrai, il y ait finalement peu d'agglomérations qui soient bloquées comme l'est Paris, est-ce que ça joue dans la sympathie que peuvent ressentir les Français pour ce mouvement?
Oui, parce qu'ils se sentent peut-être moins touchés et du coup ils regardent ça un peu plus loin en réalité, parce que le focus est vraiment mis sur la région parisienne et les gens qui souffrent, on le voit bien, de cette grève, c'est Paris, toute l'Île-de-France et tout le réseau de transport qui est bloqué. Alors, c'est vrai que ça a beaucoup baissé, 8% aujourd'hui de grévistes, donc c'est tombé au plus bas depuis le mouvement, 38% des conducteurs qui sont des conducteurs de train qui sont en grève, et cette sympathie pour le mouvement qui s'effiloche un petit peu, même s'il reste majoritaire. Le dernier sondage, c'est l'IFOP, je crois, donc c'est 51% de sympathie pour le mouvement contre 35%. Alors il y a toute une partie dans le fond qui de cette opinion qui est en train peut-être de basculer dans l'interrogation. C'est-à-dire que ça reste majoritaire, mais on s'interroge quand même. On se dit bon.
C'est quoi l'interrogation?
L'interrogation, c'est dans le fond cette grève est compliquée. Pourquoi ils font ça à Noël? Donc certains sont furieux de pas pouvoir avoir pu passer Noël en famille, donc peut-être que les commerçants aussi ont un manque à gagner extrêmement fort. Donc c'est début janvier qu'on fera vraiment le point. Donc il y a une forme d'attentisme. C'est vrai que les réformes en France sont toujours regardées d'un drôle d'œil, parce que dans le fond, ça veut dire réforme, ça veut dire quoi? Recul, entourloupe, quelque chose quand même ne va pas. Donc il y a une forte interrogation des Français. Et je pense que l'heure de vérité sera début janvier, donc le 7 janvier, reprise des négociations. Et puis la mobilisation aussi le 9 janvier. C'est là qu'on verra si effectivement le mouvement, l'opinion bascule.
Merci Roselyne Fèvre. On va continuer à en parler dans deux minutes. Je vous demanderai votre avis, Nasser Khétan. Est-ce que vous pensez que le mouvement de grève va repartir en janvier? On va voir ça après toute l'actu résumée à 20h10 sur France Info. C'est avec Boris Allier.
La perspective d'une grève massive dans les aéroports s'éloigne. Après les hôtels et les hôtesses et les stewards, les pilotes du syndicat SNPL suspendent eux aussi leur préavis. Il était prévu pour le 3 janvier. Les organisations estiment avoir obtenu des avancées du gouvernement sur la réforme des retraites. La grève à la SNCF, en revanche, se poursuit avec un trafic encore perturbé. Demain, on prend les mêmes chiffres qu'aujourd'hui. 6 TGV et 4 TER sur 10 et une moyenne de 3 intercités sur 10 à Paris. 6 lignes de métro resteront fermées demain. Deux hommes de 27 et 59 ans vont dormir en prison après la mort d'un père de famille en Seine-et-Marne. L'homme avait disparu début décembre. Son corps avait été retrouvé à Lizy-sur-Aulx par de Meaux mardi. Deux suspects sont mis en examen pour meurtre aggravé et complicité. La France met la pression sur l'Iran. L'ambassadeur iranien convoqué aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères pour réclamer la libération sans délai de Roland Marshall et Fariba Adelka. Les deux sont accusés par Téhéran d'espionnage ou de collusion contre la sécurité nationale. Et puis ça y est, c'est officiel, Zlatan Ibrahimovic de retour sur les terrains de football européen. L'attaquant a signé pour 6 mois avec son ancien club, l'AC Milan. À 38 ans, le Suédois était libre depuis son départ de Los Angeles.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Augustin Arrivé.
On a entendu La République en marche tout à l'heure, on va entendre la CGT. Maintenant, Philippe Martinez est retourné sur le terrain ce matin, le secrétaire général du syndicat. Il était à Vitry-sur-Seine, on est dans le Val-de-Marne. Certains grévistes ont tenté de bloquer un dépôt de bus de la RATP. Il y en avait 4 qui étaient perturbés ce matin, mais ça a duré 2 heures avant l'intervention des forces de l'ordre.
Le gouvernement, Premier ministre, qui a dit « je ne veux pas de confrontation », il envoie des CRS comme symbole de dialogue social. Je pense que ce n'est pas la meilleure symbolique face à des grévistes d'envoyer les CRS, mais ça dénote la fébrilité du gouvernement. Et on voit bien d'ailleurs que le gouvernement commence à lâcher, lui qui ne voulait pas de régimes spéciaux, commence à reconnaître qu'il y a certains métiers qui nécessitent des particularités. Ça montre que le conflit, il pèse.
Alors, avant de revenir sur ce qu'il dit là, sur les régimes spéciaux, Philippe Martinez, le fait qu'il se rende ce matin, un vendredi 27 décembre, entre Noël et le jour de l'an, Nasser Kétan, sur ce dépôt de bus, c'est pour redonner du souffle aux grévistes pendant cette période de Noël ?
Oui, je crois que c'est pour dire... Nous, les fêtes, on les vit sur le piquet de grève. On a vu les images là-dessus, donc c'est de dire voilà, on est fête ou pas fête, on est constant dans notre lutte et il s'agit de notre avenir, de nos retraites. Et je crois que c'est un message, oui, c'est un message à la fois aux grévistes et c'est un message aussi à la population en disant nous, on est vraiment aussi engagés pour vous, pour vos 8 jours.
Même s'il reste, on le disait, 8,5% de grévistes à la SNCF aujourd'hui, c'est pour montrer non, on occupe le terrain quoi.
Ça c'est des chiffres. Je crois qu'il faut pas se limiter à ces chiffres. Je crois que la grève, elle est soutenue par les Français. Moi, je prends le métro, je suis dans la rue. Je crois que les gens ont le sentiment quand même qu'on touche à quelque chose qui était gravé dans le marbre, c'est-à-dire une des conquêtes sociales suite au Conseil national de la Résistance. Comme l'école laïque gratuite et obligatoire, comme l'aide médicale, etc., etc. La France, c'est ça. C'est la France avec un grand F. Ils ont le sentiment qu'on touche à ça. Et on peut pas y toucher n'importe comment. Et donc, il y a des gens qui vont travailler parce qu'ils peuvent pas faire autrement, sinon ils se font licencier. Mais il y a une espèce de petit sondage. Regardez cette cagnotte. Cette cagnotte qui arrive presque à 1 million d'euros
pour soutenir les
grévistes. Presque 1,5 million d'euros, c'est des 30 euros, des 50 euros, des 10 euros, etc. C'est-à-dire que des gens envoient pour soutenir les grévistes. C'est peut-être pas un sondage, genre est-ce que vous êtes pour ou contre, mais c'est symptomatique de ce que ce mouvement a comme sympathie. Donc moi je vois dans le métro, je suis serré, etc. On discute avec les gens. Les gens évidemment sont pas contents parce que etc. etc. Mais ils sentent quand même que c'est entre guillemets pour la bonne cause. Et là on voit bien que le gouvernement est en train de reculer sur l'âge pivot. Moi je suis au Conseil économique et social. Édouard Philippe est venu nous délivrer sa réforme droit dans ses bottes. Il a parlé, il est reparti. Pas un dialogue ni rien. Il a dit les régimes spéciaux, non. Alors que il y a des travails féminins, il y a des travails de nuit, etc. Il y a des choses qui, même si c'est pas un régime spécial, des choses qui méritent d'être un peu mieux travaillées. Et la preuve, c'est qu'ils viennent de faire un truc sur les stewards et les hôtesses après avoir concédé aux militaires et aux policiers aussi un régime spécial. Donc ça aussi, ce qu'ils auraient
Mais
dû faire.
Ils vont pouvoir partir à la retraite à taux plein à partir de 60 ans.
Voilà. Ce qu'ils auraient dû faire il y a quelques mois, ils sont en train de le faire. Ils sont en train de le faire. Ils auraient dû faire un grand débat, comme il y a eu ce grand débat dans toute la France. C'est un grand débat autour de la retraite, etc. Sur l'âge pivot, sur le système de points. Les gens ne comprennent pas ce système de points. Ce bonus-malus, comme si l'être humain était une voiture, une assurance. Un être humain, il est malade, il est handicapé, il est au chômage, etc. On comprend pas. Les gens, pour ça, c'est confus. Ils ont envie d'un peu de clarté. Et là, on a des syndicats qui leur délivrent un discours de clarté en disant nous, on a des choses, on veut pas revenir en arrière, on veut essayer, on est pour la négociation, mais on souhaite que quand même les choses qui ont été acquises depuis longtemps au moins ne soient pas altérées.
Sylvain Boulouk, effectivement, si le gouvernement cède à telle et telle profession, il va ensuite se poser la question de comment sortir de la grève sans avoir l'air d'avoir perdu le bras de fer.
Ben, là il y a déjà un... Alors, pour l'histoire globale de ce genre de réforme et de ce genre de mouvement, normalement, déjà, il y a un problème de méthode qui est complètement inversé par rapport à ce qu'on a pu voir traditionnellement auparavant. C'est-à-dire que normalement, on commence par une négociation nationale et puis après, on décline par branche. Et là, le gouvernement est en train de procéder de manière exactement inverse, c'est-à-dire commencer par branche pour arriver peut-être à la fin à une réforme nationale. On ne sait pas exactement ce qu'il en est. En plus, il y a un déficit de communication sur un certain nombre de points qui laisse une majorité de la population, même parmi les observateurs un peu attentifs, dans une espèce d'expectative, voire un doute, en ne sachant pas quel est l'objectif final, si tant est qu'il y a un objectif final. Après, il y a la deuxième chose qui est effectivement ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est l'héritage du Conseil national de la Résistance. Le gouvernement dit, on veut poursuivre dire, en fait, pour conserver cette universalité. Sauf qu'ils conservent cette universalité en étant, en portant un projet de loi, en n'ayant pas associé tous les autres. Alors que le Conseil national de la résistance, c'était exactement l'inverse, puisqu'il y a eu une unité, une unanimité, pardon, du pays, des gaullistes aux communistes, pour justement mettre en place cette sécurité sociale et mettre en place.
Les Français s'en soucient que ça vienne du Conseil national de la résistance.
Ça fait partie des héritages qui n'ont pas complètement disparu. C'est-à-dire que même si ça ne veut plus forcément dire grand-chose réellement, l'idée que ça vient de la résistance est quand même un héritage. C'est un peu comme si vous disiez, enfin, c'est en France, vous avez quand même deux héritages qui sont relativement forts. C'est la Révolution française, l'universalité du message de la Révolution française, et une forme d'universalité de la résistance. Donc ça fait partie des grands lieux de mémoire, pour reprendre une expression, alors lieu de mémoire symbolique, mais c'est des grands temps mémoriels de l'histoire de France.
Roselyne Febvre, vous pensez comme Nasser Kétan que le gouvernement est en train de reculer sur certains points, sur ce dossier ?
En tout cas, ce qu'il essaye de faire, c'est effectivement de décoaguler, c'est-à-dire que dès qu'il y a un foyer de contestation, on le voit, que ce soit les pilotes ou les personnels navigants, tout de suite, il y a... Alors, il n'y a pas de communication, c'est pas filmé, on ne voit rien, mais il y a des négociations et la preuve, on a vu que les pilotes et les personnels navigants, effectivement, se retiraient de la grève et ne vont pas faire grève. Donc, il y a effectivement, on tue dans l'œuf le reste.
C'est divisé pour mieux régner.
Oui, on divise le mouvement. On attend effectivement la rentrée pour voir si la CFDT reste aussi braqué sur l'âge pivot. C'est toute la question en réalité. C'est ça qui est extraordinaire dans ce conflit, c'est que dans le fond, personne ne comprend ce qu'est en train de faire le gouvernement.
Et Emmanuel Macron reste assez silencieux. On verra ce qu'il dit peut-être pendant les
vœux. Oui, il a réclamé une trêve lorsqu'il était en Afrique, en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de ça, on n'entend plus ces silences radio du côté de Matignon et on attend effectivement la reprise des négociations. Alors, est-ce que cette grève va s'essouffler effectivement, parce que vous le disiez, on l'a dit, ça s'est tombé à 8%. Est-ce que ça reprend de la vigueur et de la force au mois de janvier, c'est un peu la question. Et surtout, est-ce que l'opinion se retourne soit contre le gouvernement ou soit du côté des syndicats, en tout cas, pas réformistes, mais ceux qui tiennent la barre aujourd'hui.
La reprise des négociations, ce sera le 7 janvier, mais dès demain, il y aura peut-être une journée en forme de test avec une nouvelle mobilisation nationale. On va en parler dans deux minutes, juste après Boris Allier et toute l'actu résumée à 20h20 sur France Info.
Après une semaine de fermeture, l'aéroport d'Ajaccio va enfin rouvrir. Les avions vont pouvoir atterrir et décoller à partir de minuit. Le site avait dû être évacué après des inondations liées à la tempête Fabien le week-end dernier. Attention, eau non potable en Seine-Maritime. Il est déconseillé de boire l'eau du robinet dans 43 nouvelles communes au nord de Rouen. Plus de 20 000 habitants sont concernés. Les intempéries de ces derniers jours ont contaminé certaines nappes souterraines. C'est une information France Info. Plus de 1000 médecins ont décidé d'abandonner leurs fonctions administratives depuis la mi-décembre. Ils dénoncent ce qu'ils appellent l'effondrement de l'hôpital public. Une pétition de ces chefs de service sera remise à la ministre de la Santé début janvier. En Algérie, une mobilisation plus faible que d'habitude dans la capitale. Aujourd'hui, 45e vendredi consécutif de contestation. Certains manifestants veulent rester mobilisés après la mort du chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah. Leur revendication, la chute du système politique. Et puis la Coupe du monde de ski alpin. Et cette troisième victoire consécutive à Bormio pour Dominique Paris. L'Italien s'impose sur ses terres en descente. Le Français Maxence Musatan, lui, termine cinquième.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Augustin Arrivé.
Sylvain Boulouk, c'est ce que disait Roselyne Febvre à l'instant. La communication du gouvernement depuis le début de cette grève, c'est quand même le 23e jour. Elle est assez discrète et disparate. Est-ce que c'est une stratégie ? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que c'est divisé pour mieux régner ? On fait des négociations par-ci, par-là.
Là, il y a véritablement une volonté de segmenter les secteurs professionnels qui seraient prêts à négocier. Le premier et le plus révélateur, ça a été les forces de l'ordre, puisque là, tout de suite, ça a été un régime spécial qui a été finalement maintenu. Donc, c'est-à-dire que déjà, il n'y a plus cette universalité des régimes spéciaux.
On refait des régimes particuliers.
Voilà, c'est déjà...
Ça a pu braquer l'opinion, d'ailleurs, que ça commence par là.
Ça a pu braquer l'opinion parce qu'il y a un autre phénomène qui est sous-jacent, qu'on a tendance à oublier, mais c'est qu'il y a quand même eu un an de gilets jaunes avec des manifestations, et manifestations où il y a eu quand même quelques violences policières, pour euphémiser. Et ça n'a pas
été...
Vous
êtes bien placé pour le savoir avec votre livre consacré aux gilets jaunes.
Ça n'a pas forcément été oublié par un certain nombre de personnes. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve de manière assez fréquente sur les réseaux sociaux en disant ils ont été remerciés grassement, entre guillemets. Ça, c'est bon. Ça, c'est une première chose. Deuxième élément, après, il y a des négociations qui sont extrêmement variables en fonction des catégories socioprofessionnelles. Parce que, par exemple, si on prend le cas de l'hôpital, on en est au troisième plan, je me souviens même plus. C'est le troisième plan pour l'hôpital. Troisième plan qui a été refusé systématiquement par les personnels hospitaliers.
Alors, dixième mois de mobilisation.
Dixième mois de mobilisation sans aucune. Alors, il y a des sommes qui ont été versées, mais visiblement très inférieures aux demandes des personnels hospitaliers. Donc, quelle va être la suite ? Là aussi, on a une volonté de sectoriser, mais chacun des secteurs considère que ce n'est pas assez par rapport aux efforts consentis pour rendre service au public, hein, puisque c'est aussi l'objectif de l'hôpital, de l'enseignement, enfin, de toutes les corporations qui sont... Donc, on a effectivement une volonté de la part du gouvernement de fractionner, et en même temps alors ça peut marcher sur les pilotes, c'est pas sûr que ça marche sur l'ensemble des secteurs professionnels, et effectivement on est un peu suspendu, et je pense que le gouvernement est aussi suspendu. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 6 janvier dans la mesure
mais ça a trop c'est vrai que ça a beaucoup trop traîné, et que dans le fond la complexité a généré de l'angoisse chez les Français parce que personne n'a rien compris. Et ça a nourri le scénario négatif. Et aujourd'hui, les Français sont extrêmement méfiants.
Alors qu'il y a un trop-plein de réformes aussi, c'est-à-dire que cette réforme-là, alors, elle arrive pas... après plusieurs autres réformes.
Peut-être, mais les autres étaient un peu passés comme une lettre à la poste, parce qu'au début, l'idée d'Emmanuel Macron, c'était de dire on veut rétablir une justice sociale sur les retraites, on veut refaire de la solidarité, hein, c'était son idée, et puis surtout, vis-à-vis des jeunes, les jeunes ne croient plus au fait qu'ils auront une retraite. Donc c'était donner de la crédibilité au système de retraite. Mais il n'a pas été compris là-dessus. Cette idée d'universalité, effectivement, Sylvain a raison, elle est en train de tomber à l'eau, parce que dans le fond, on refait des régimes particuliers, et donc, il restera un système à point, mais ce sera plus un système universel, puisqu'il y aura des régimes particuliers. Donc là, il y a eu, effectivement, je pense que le président et le premier ministre ont ouvert une boîte de Pandore, parce qu'ils sont obligés de donner aux uns et aux autres. Les gilets jaunes ont montré qu'en vociférant et en allant dans les rues, ils allaient pouvoir obtenir.
Avec cette nuance, c'est que pour l'instant, les cortèges syndicaux sont d'un pacifisme
absolument, absolu. Il faut le noter d'ailleurs, et s'en félicite.
Et qu'on n'est pas du tout dans... alors que
non, non mais... Ils ont, quand même, les gilets jaunes ont obtenu 17
oui,
milliards.
Ils ont,
donc, ça a été quand même un signe qu'on pouvait obtenir.
Oui, mais visiblement,
si,
c'est la violence qui si aurait...
Nasser Khétan, le risque quand on distribue en quelque sorte des exceptions à tel ou tel secteur d'activité, c'est que ceux qui n'en auront pas à la fin se sentent un peu laissés pour compte.
Ouais, non, moi je pense que il faut de toute façon il y aura des régimes qui s'appelleront peut-être pas spéciaux, mais qui auront d'autres noms, mais ça sera des régimes spéciaux. C'est une utopie de croire que on va mettre tout le monde à la même enseigne. C'est faux. La France, elle est diverse, le monde du travail et c'est la diversité, c'est la variété. Mais je pense qu'il faut pas vivre cette histoire comme une guéguerre entre le gouvernement a perdu, il a gagné, les syndicats ont gagné. Non, je crois que c'est pas ça. Je veux dire, les questions est quand même du sociale, il est question de retraite des gens, et ça c'est dans le consensus. Ça se fait dans le consensus, ça se fait pas dans l'affrontement. Et je pense qu'il faut pas dire
on est à 18 mois, pardon, de négociation quand même.
Ouais, il faut pas dire on est à 8%, etc. Je veux dire que je vous rappelle quand même que le monde syndical, le monde du travail, le monde de la grève, c'est quelque chose qui mue, qui bouge. Ça baisse, ça remonte, ça s'étend, etc. Et rappelez, en fonction des moments, rappelez-vous, à un moment donné, il y a eu l'hôpital qui s'est mis en grève, l'enseignement, l'éducation nationale qui s'est mis en grève, les étudiants qui se sont mis en grève, les raffineries qui ont commencé à fermer. Donc, en fonction de comment ça évolue, vous allez avoir tel ou tel secteur de l'économie qui va aussi bouger. Donc, il ne faut pas croire que les choses sont statiques et que finalement, de 8% à 6%, à 2%, c'est pas comme ça. Demain, ça sera à 15%, après-demain, 12%. Il y aura tel secteur qui va se mettre en grève parce que ça doit aller vers le consensus. Il
est question d'une conquête sociale. C'est compliqué le consensus en France en 2019-2020 en même temps.
Alors, oui, mais ça doit aller vers ça parce que je veux dire que l'arrivée d'Emmanuel Macron, c'était il y a plus structure intermédiaire, il y a plus de syndicats, il y a plus ceci, il y a plus cela, et les gilets jaunes ont été l'émanation justement de dire on va aller taper à la porte du prince directement, et puis là on redécouvre les structures intermédiaires, on redécouvre les syndicats, et la France c'est ça, ouais. La France ça fonctionne.
Ils essaient de regagner leur place, les syndicats, dans cette mobilisation sociale.
Il y a en même temps autre chose, un parallèle historique un peu long, parce qu'on est aussi face, dans un bras de fer, face à deux professions qui ont encore les plus forts taux de syndicalisation. Alors, c'est pas sans analogie avec une situation historique qui a peu
alors
à voir.
Vous parlez de quelle profession? Les cheminots?
Cheminots et RATP. Ouais. Et c'est pas sans analogie avec une autre situation historique qui est pas en France, qui est en Angleterre, c'est la façon dont Margaret Thatcher avait conduit la grève des mineurs, avait décidé de mettre à genoux les mineurs. Et là, on est un peu dans cette volonté de laisser traîner les choses parce que l'objectif est peut-être aussi d'obtenir la fin de alors je dirais pas un monopole syndical parce que c'est plus un monopole syndical, mais la fin de ces dernières ce qu'on appelait les forteresses ouvrières dans le temps, même si c'était pour Renault, mais un peu la fin de ce régime particulier d'une forme de puissance syndicale.
On verra demain avec cette nouvelle journée de mobilisation intersyndicale si les grévistes regagnent un peu de terrain. En tout cas, on continue avec les informés sur d'autres sujets dans 5 minutes à peu près. Là, tout de suite, c'est la météo.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, créateur de machines expresso à dose, fabriquées en France, à retrouver sur malongo.com.
Sébastien Léas, Météo France.
La tendance à la calmie se confirme avec un puissant anticyclone qui va se centrer sur l'Europe de l'Ouest. Mais en cette saison hivernale, il faut s'attendre à de nombreuses grisailles dès demain matin, sous forme de nuages bas étendus et de bandes brouillard. La dissipation de ces grisailles sera parfois tardive et aléatoire sur le quart nord-ouest et du Berry au Lyonnais. De belles éclaircies devraient quand même se dessiner demain après-midi. Le soleil s'imposera encore plus rapidement sur la moitié sud et le quart nord-est. En revanche, dans les plaines du sud-ouest, la plaine d'Alsace, le Val de Saône et entre la Bretagne, le Cotentin et les Flandres, les nuages bas risquent de persister toute la journée. Les sommets du relief et le pourtour méditerranéen bénéficieront du soleil dès le lever du jour. Les températures commencent à fraîchir, mais restent le plus souvent au-dessus des valeurs de saison. Il fera 3 à 6 degrés sur le nord-est, 12 à 16 degrés autour de la Méditerranée et 6 à 13 degrés sur le reste du pays.
Sébastien Léas de Météo France. France Info, il est 20h30. Tour d'Alexandre Berthaud.
La grève est depuis aujourd'hui plus longue que celle de 1995, 23e jour du mouvement contre la réforme des retraites, et ça continue demain malgré un taux de grévistes en baisse. 6 TGV sur 10 circuleront ce week-end, un peu moins de la moitié en début de semaine prochaine. Les perturbations se poursuivent aussi dans le métro parisien et sur les RER. Et cette grève, elle pèse énormément sur l'activité des petites et moyennes entreprises. C'est en tout cas ce qu'affirme Bernard Cohen-Haddad, le président de la CPME en Ile-de-France, était invité de France Info cet après-midi.
On a 93% de nos entreprises qui sont impactées par le mouvement de grève, avec des retards de livraison, de l'absentéisme des salariés et 80% de baisse du chiffre d'affaires dans certaines activités, l'hôtellerie-restauration, certains commerces de bouche, dans certaines activités, ce qu'on appelle les services à la personne, ou même dans l'hôtellerie-restauration, vous avez du personnel qui ne peut pas faire 4 heures de marche à pied pour venir travailler. Et donc, vous n'avez pas de cuisinier, vous n'avez pas de chef de rang, vous n'avez pas de serveur, vous n'avez pas de femmes de chambre dans des hôtels. Et donc, ces hôtels sont obligés de fermer, sans compter toutes les annulations de chambres que vous avez sur les réservations. Donc, on est vraiment dans une sinistrose durable. Moi, j'appelle ça un économicide pour nos entreprises. Et ce qu'on espère, c'est qu'à un moment, il y aura un peu de solidarité de la part de ceux qui sont quand même dans une situation peut-être difficile, mais pas catastrophique comme celle de nos entreprises.
Bernard Cohen-Haddad, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Île-de-France. Concernant les prévisions de trafic, la RATP annonce la fermeture de 6 lignes de métro demain et un trafic partiel des RER A et B entre 12h et 18h. À la SNCF, on compte 3 TER sur 10, un intercité sur 3 et un transilien sur 5 en circulation demain. C'était attendu, c'est désormais officiel, le syndicat majoritaire chez les pilotes de ligne retire son préavis de grève pour le 3 janvier. Le SNPL parle d'avancées significatives dans ses discussions avec le gouvernement concernant la réforme des retraites. Il exigeait notamment le maintien de la caisse de retraite du personnel navigant et la possibilité de partir à taux plein à 60 ans. Plus de 1000 médecins en hôpitaux démissionnent ou menacent d'abandonner leur poste. C'est une information France Info. Ils ont tous signé une pétition et veulent dénoncer l'effondrement de l'hôpital public. L'ensemble des signatures sera remis début janvier à la ministre de la Santé. Les relations diplomatiques se tendent entre la France et l'Iran. L'ambassadeur du pays a été convoqué aujourd'hui par le ministère des Affaires étrangères. Le Quai d'Orsay dénonce l'emprisonnement intolérable de deux universitaires français en Iran, Roland Marchal et Farida Adelrar, la chercheuse qui a entamé une grève de la faim cette semaine pour dénoncer la justice expéditive du pays. Depuis deux semaines et l'intensification des combats, 235 000 Syriens ont été déplacés selon l'ONU. Il s'agit de la conséquence des bombardements du régime et des Russes dans la province d'Idlib. Les combats se déroulent également au sol face aux djihadistes et aux rebelles malgré un cessez-le-feu signé au mois d'août. Zlatan Ibrahimovic signe à l'AC Milan. Après sa parenthèse américaine, l'attaquant suédois revient en Europe. Le club italien l'a annoncé ce soir, il a signé un contrat de 6 mois. Et puis après avoir joué le Boxing Day hier, dernier match de la 19e journée de Premier League, le championnat anglais, ce soir la rencontre débute dans un peu plus de 10 minutes. Wolverhampton reçoit Manchester City.
Merci Alexandre Berthaud.
20h, 21h, France Info, les informés, Augustin Arrivé.
Vanessa Springora sortira la semaine prochaine un livre chez Grasset qui s'appelle Le consentement. Elle y raconte son adolescence et précisément comment à 14 ans elle était sous l'emprise d'un homme d'une cinquantaine d'années. On va en parler dans cette deuxième partie des informés. Toujours avec nous Roselyne Fèvre du service politique de France 24, Sylvain Boulouk, historien spécialiste des mouvements sociaux et puis Nasser Kétan, directeur général de la radio Beurre FM. Cet homme dont parle cette écrivaine, Vanessa Springora, c'est l'écrivain également, Gabriel Matzneff, et ressort des archives de l'INA cette émission de Apostrophe en 1990, où il était l'invité de Bernard Pivot. Il venait présenter un livre où il racontait ses aventures avec des mineurs, et voilà comment il était introduit.
Gabriel Matzneff, qui est en face de vous, s'il y a un vrai, véritable professeur quand même d'éducation sexuelle, c'est quand même Gabriel Matzneff, parce que il donne volontiers des cours et en payant de sa personne.
En payant de sa personne, Bernard Pivot a réagi sur Twitter aujourd'hui en écrivant « Dans les années 70 et 80, la littérature passait avant la morale. Aujourd'hui, la morale passe avant la littérature et moralement, c'est un progrès. » Fin de citation. Ça paraît en tout cas fou quand on écoute cet extrait, Roselyne Fèvre. La société a tellement changé en l'espace de 30 ans.
Oui, et ce que dit Bernard Pivot est vrai, parce que c'est vrai que ça peut paraître choquant de voir interviewer Matzneff, dont on savait, hein, parce que depuis les années 70, il écrivait dans les 16 ans, je crois, « Je n'imagine pas ayant une relation sensuelle avec un garçon qui aurait franchi le cap de sa 17e année ». Donc c'est vrai que l'œuvre est toujours plus importante dans le fond que celui qui l'a créé, donc l'artiste, que ce soit le peintre ou l'écrivain, et que le talent, en quelque sorte, devait effacer la faute ou l'immoralité. Et c'est vrai que Matzneff faisait de la puberté un truc un peu esthétisant. Et faut rappeler que dans les années 70, il avait milité, c'est en 77, il militait pour que la pédophilie soit quand même décriminalisée, et il fait un texte à l'époque qui est signé par le Tout Paris intellectuel. Il y a quand même Sartre, il y a Beauvoir, il y a Roland Barthes, il y a Aragon, je crois. Donc, c'est quand même assez fascinant. Oui, cette société, elle a changé parce que c'était la fin quand même des 30 glorieuses. Le climat était à la liberté sexuelle, un peu à l'optimisme, à la tolérance. On découvrait la société de consommation. Il y avait le mouvement hippie aussi qui ouvrait toutes les formes de pensée, la drogue, la liberté sexuelle. Donc, une forme de vague d'optimisme Et fallait rappeler qu'à l'époque, le féminisme était en train d'éclore, mais toutes les minorités, dans le fond, ne s'étaient pas imposées comme elles s'imposent aujourd'hui. Donc c'est vraiment, on voit en 30 ans à quel point la société a évolué, et c'est pas plus mal.
Nasser Khétan, qu'est-ce qui a changé justement cette société? Comment est-ce que, comme le disait Roselyne Febvre, eh bien cette société a réussi à évoluer?
Oui, c'est-à-dire qu'on là, quand vous parlez de cette émission, on sort de 68, du mouvement de 68, où il est interdit d'interdire. Oui. Donc où tout est possible, tout est dit, etc. Et on a rappelé que l'artiste, le créateur, celui qui crée, est constamment dans la transgression. Quel que soit son art, il est transgressif. Et donc ça, c'est son altérité en tant qu'artiste, et il est dans la transgression. Ensuite, il peut faire ce qu'il veut avec des chèvres, il peut manger des feuilles par terre, des pierres, etc. Après, la question, c'est comment on médiatise.
Je crois qu'il peut pas faire ce qu'il veut avec des chèvres aussi, ça tombe sous le coup de la
C'est comment on médiatise. C'est la médiatisation qu'il y a autour de ça. Parce que le type dans son coin, il fait ce qu'il veut avec sa sculpture, avec son roman, etc. Mais comment on en parle ensuite? Et en même temps que les médias apparaissent, il y a aussi ce formidable mouvement, la charte des droits de l'enfant, le parlement de l'enfant. Maintenant, aujourd'hui, c'est même carrément à la petite enfance qu'on découvre que l'individu, l'être humain, a de vraies fonctions, a de vraies capacités, de vraies possibilités, et ce n'est plus simplement un objet, entre guillemets, pour assouvir telle pulsion sexuelle, ou tel le travail des enfants, etc., etc. Et donc, de ce point de vue-là, évidemment, la société a fait d'énormes progrès. Et là, on se retrouve un petit peu dans un phénomène...
C'est vrai que ça n'est pas tout à fait le même contexte, ni les mêmes faits, mais quand on a eu la polémique autour de Roman Polanski à la sortie de son dernier film, là, on n'a pas quelqu'un qui revendique en tant que tel les actes qu'il a pu avoir.
On a eu Nadine Trintignant, quand même, pardon, Nadine Trintignant, qui s'est exprimée sur beaucoup de télé et de radio pour dire que c'était scandaleux et qu'il avait un talent fou et que Roman c'était Polanski. Le meilleur, que Polanski était l'un des meilleurs réalisateurs aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que souvent on dissocie, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on dissocie l'œuvre du personnage. Par exemple, Michel-Ange, quand on va à la chapelle Sixtine et qu'on s'extasie devant la chapelle Sixtine, on dit, ouais, c'est vrai que c'est fabuleux. Mais on se souvient pas que c'était un type atroce, radin, colérique, un type absolument épouvantable. C'est-à-dire que l'œuvre sublime celui qui l'a créé. Donc c'est ça qui aujourd'hui malheureusement reste. Et comme lui, en quelque sorte, il a avoué sa faute, il est à moitié pardonné.
Internet et les réseaux sociaux ne sont sans doute pas plus pour rien dans ce changement de perspective. Sylvain Bouloux, vous vous êtes intéressé à ces réseaux sociaux dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes. Je vais vous poser la question juste après sur ce cas de Gabriel Mazneff, mais il est 20h40, on va à nouveau faire un point sur l'actu avec Boris Allier.
Le taux de grévistes à la SNCF en baisse, 8,5%, soit le niveau le plus bas depuis le début du mouvement, mais les syndicats restent mobilisés, près de 400 manifestants aujourd'hui à Lyon contre la réforme des retraites. D'autres actions sont prévues demain un peu partout en France. L'enquête après la découverte du corps calciné d'une femme dans les Alpes-Maritimes, la police s'oriente vers le milieu de la prostitution. Cette femme originaire de l'Europe de l'Est et âgée de 37 ans était connue des enquêteurs à Cannes. Deux hommes de 27 et 59 ans vont dormir en prison après la mort d'un père de famille en Seine-et-Marne. L'homme avait disparu début décembre. Son corps avait été retrouvé près de Meaux mardi. Deux suspects sont mis en examen pour meurtre aggravé et complicité. En Syrie, les combats dans la province d'Idlib ont poussé sur les routes plus de 235 000 habitants. Plusieurs villes se sont quasiment vidées selon l'ONU avec l'intensification des affrontements depuis 15 jours. Et puis Zlatan Ibrahimovic de retour en Europe. C'est désormais officiel. L'attaquant va porter les couleurs de l'AC Milan, son ancien club avec qui il a signé pour 6 mois. Le Suédois de 38 ans était libre depuis son départ de Los Angeles.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Augustin Arrivé.
Sylvain Boulouk, je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, Mensonges en gilet jaune, où vous vous intéressez à comment Internet et les réseaux sociaux ont permis de propager aussi des fausses rumeurs pendant le mouvement des gilets jaunes. Internet et les réseaux sociaux, ça permet aussi de bonnes choses, sans doute, et notamment la prise de conscience de certaines injustices. On parlait à l'instant de cet homme, écrivain Gabriel Mazneff, et de ce qu'il pouvait raconter dans les années 80-90, n'est plus possible aujourd'hui.
Il y a plusieurs choses dans l'histoire Mazneff, parce qu'il écrit un certain nombre de livres dès les années 70, dans lesquels il fait l'apologie de la pédophilie, qui est déjà passible de la loi. Il n'y a pas eu de plainte. Alors, il évoque un certain nombre d'expériences sexuelles avec des mineurs de 9 à 11 ans dans un certain nombre de pays d'Asie, qui c'est là crime qui est également passible de sanctions pénales. Et il n'y a absolument rien eu. Donc, ce qui veut bien dire qu'il y a eu une évolution des mœurs, une évolution de la mentalité sur un certain nombre de crimes. On s'en rend compte avec, je fais la liaison avec maintenant, justement les réseaux sociaux, où ce genre d'attitude serait totalement serait dénoncé immédiatement et serait il y aura un certain nombre de victimes qui pourraient manifester par des réseaux sociaux le fait d'avoir été victime d'un prédateur sexuel, puisque c'est un prédateur sexuel. Et
aujourd'hui il ne risque plus grand chose
et aujourd'hui délai. Alors la chose, c'est que la pédophilie, il y a une prescription de 20 ans, donc effectivement la loi, le crime est prescrit au bout de 20 ans. Donc de fait, il ne tombe plus sous le coup de la loi. Mais demeure qu'un certain nombre de choses qui normalement auraient dû Bernard Pivot, quand il dit ce qu'il dit, il aurait déjà dû dire attention.
Vous êtes... Et parce qu'il y avait
un certain... Alors, ce qui est très intéressant,
il y avait un machiste
qui résistait.
Il y a une...
Oui, il y a une journaliste canadienne justement qui est présente et qui dit, mais monsieur, vous êtes un monstre.
Un
bourreau. Et Mazneff a un certain nombre d'expressions où il est justement dans le retournement complet. Il montre que c'est un bourreau en expliquant que finalement c'est pas des victimes, elles sont consentantes, et que ceux qui protestent sont, alors pratiquement, l'expression c'est pas exactement ça, puisqu'elle est disponible partout. Lina a remis la vidéo en ligne.
Oui, ça partage très fort sur les réseaux sociaux. Justement.
Et Mazneff explique que finalement c'est ceux qui l'accusent qui sont hystériques. Donc on voit très bien qu'on est dans la posture complète du retournement, posture qui est privilégiée par les bourreaux dans ce genre de cas.
Je vous propose d'écouter Françoise Laborde, qui est une ancienne membre du CSA et ancienne membre aussi du Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle aussi, elle dit, voilà, c'était une autre époque, c'était une époque permissive.
Gabriel Mazneff a quand même été à l'origine d'une pétition qui a circulé et dans le journal Libération et dans le journal Le Monde plus tard, qui demandait à ce que, en effet, on autorise les relations sexuelles entre adultes et enfants. Dans la foulée, si je puis dire, de mai 68, il est interdit d'interdire. On trouvait en effet qu'il était parfaitement bienvenu d'autoriser des adultes à séduire des petites filles ou des petits garçons. Parce que pour qui s'intéresse à la littérature, enfin si je puis dire en tout cas aux écrits de Gabriel Mazneff, on se rend compte que non seulement se féliciter d'avoir un certain nombre de maîtresses, toutes plus jeunes les unes que les autres, et puis quand il parlait de ses voyages exotiques à Manille ou ailleurs, il raconte avec beaucoup de détails le plaisir qu'il avait à avoir une relation sexuelle avec des garçons de 10-11 ans. Quel dommage qu'à l'époque, Mazneff ait été encensé par une sorte de caste qui trouvait que la pédophilie était une chose formidable, parce que cet homme était d'abord un prédateur.
Voilà Françoise Laborde qui parlait de cette pétition que vous évoquiez, oui. Roselyne Fèvre. Et Gabriel Mazneff, il est conscient du pouvoir des réseaux sociaux. Et voilà ce qu'il écrivait le mois dernier dans Le Point, quand ce scandale n'était pas encore apparu. Le lynchage médiatique est la forme la plus vulgaire de la pornographie. Si nous n'ouvrons pas grand les fenêtres, l'atmosphère va vite devenir irrespirable. Il y a quelque chose qui revient souvent dans les gens qui sont pointés du doigt, c'est une réponse, dire ce n'est pas moi le problème, c'est la société aujourd'hui qui est problématique.
Oui, le tribunal médiatique. Et là, en l'occurrence, c'est pas Twitter, c'est pas les réseaux sociaux, c'est un roman qui sort parce que effectivement il y a eu ce mouvement MeToo avec l'affaire Weinstein et puis le balance ton porc, où dans le fond ce qu'on a vu aussi avec Adèle Haenel, que les victimes de prédateurs se taisaient, elles ne disaient rien parce que il y avait quand même ce machisme résistait depuis de longues années, il résiste encore malgré l'émergence du féminisme, malgré tout ça. On se souvient d'un ancien journaliste pourtant qui avait créé l'événement du jeudi et lors du jeu, et qui avait lors de l'affaire DSK avait dit à New York, bon, c'était qu'un troussage de domestiques, et ça avait extrêmement choqué. C'était Jean-François Kahn, pour pas le citer, excellent journaliste par ailleurs, mais enfin qui avait un peu dérapé, enfin totalement dérapé. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui les choses plus rien ne passe à ce niveau-là, et ça on peut s'en féliciter.
Et en même temps, le CSA reçoit des signalements toutes les semaines sur des émissions actuelles où il y a des propos qui sont tenus et qui visiblement gênent encore.
Oui, mais ça c'est on peut pas non plus tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire il y avait à l'époque il y a 15, 20 ans ou 30 ans, il y avait Pollack, effectivement, on clopait sur les plateaux, on disait n'importe quoi. Les polémistes ou même les humoristes pouvait avoir des propos parfois racistes, ça passait parce que c'était une autre époque. Faudrait pas non plus aussi tomber dans une espèce, alors là je parle pas de Maznev ou tout autre, hein, mais dans une époque où dans le fond on peut plus rien dire de peur de stigmatiser un tel. Il y a un moment, faut aussi que ça respire aussi, mais bien évidemment je ne parle pas de Maznev ni de la pédophilie ni du racisme, je mets à part ces deux sujets là bien évidemment,
et ça va aussi au-delà, c'est-à-dire que ça va c'est le problème des limites. Je crois qu'aujourd'hui, tout est flou. C'est-à-dire que les réseaux sociaux avec Internet, tout se mélange. Un garçon égale une fille, le bleu égale le blanc, le rouge égale... C'est-à-dire que tout se mélange. Et là, on est quand même dans une période où un enfant reste un enfant. Il est en devenir, il est en développement. Il n'a pas tous les éléments pour consentir, pour reprendre un délit de Maznev. Donc, il se pose le problème des limites, des lignes rouges à ne pas franchir. Et c'est la question aujourd'hui. Et aujourd'hui, l'explosion, le grand Big Bang des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, fait que tout est explosé, tout est mélangé. Et donc, c'est là qu'aujourd'hui, la société doit, contrairement à ce qui s'est passé il y a 30 ans, fabriquer ses propres repères, ses propres éléments, pour que justement, ce genre de choses ne continue pas ou se reproduisent.
Merci.
Juste une petite chose. Là, dans l'argument de Maznev, c'est passionnant, parce qu'on voit systématiquement le même type d'argument. C'est pas moi, c'est le tribunal médiatique. On est dans l'inversion complète. Alors, c'est quand même lui qui a écrit qu'il adorait les enfants de 9 ans. Je suis désolé, mais c'est un crime.
C'est la même rhétorique chez Éric Zemmour quand on l'attaque. Il dit on ne peut plus rien dire.
Alors qu'on a la loi de 72 qui condamne le racisme, on a un certain nombre de lois qui condamnent la pédophilie, mais non, c'est la société qui...
Mais lui, il a été impuni au nom de son œuvre, au nom de l'œuvre formidable qu'il nous avait pendue. Et il était soutenu par les intellectuels. Oui, c'était un ami de François Mitterrand.
C'est un vrai problème. Parce que normalement,
la responsabilité, c'est aussi toute cette intelligentsia.
Il y a eu une faute collective. C'est vrai que c'était une autre période et qu'il n'y avait pas cette même... il y avait une permissivité plus grande qui pouvait exister. Mais... en termes de droit, et c'est ça qui est absolument incompréhensible, c'est qu'en termes de droit, normalement, il aurait dû se retrouver au moins inculpé, enfin
condamné.
Condamné même, puisqu'il le revendique. Donc,
Un tout autre sujet dans deux minutes, puisqu'on va parler de sécurité routière, mais je me permets de clore ce débat en rappelant donc la sortie le mois prochain de ce livre de Vanessa Springora, Le consentement.
Après les stewards et les hôtesses de l'air, les pilotes du syndicat SNPL annoncent la suspension de leur préavis de grève. Il était prévu pour le 3 janvier. Les organisations syndicales assurent avoir obtenu des concessions du gouvernement pour leur régime de retraite. La grève à la SNCF, en revanche, se poursuit avec un trafic encore perturbé. Demain, comptez 6 TGV et 4 TER sur 10 et une moyenne de 3 intercités sur 10 à Paris. 6 lignes de métro restent fermées. La France continue à réclamer la libération sans délai de deux universitaires emprisonnés en Iran. Roland Marchal et Fariba Adelka sont accusés par Téhéran d'espionnage ou de collusion contre la sécurité nationale. L'ambassadeur iranien à Paris a été convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Plus de 1000 médecins ont décidé d'abandonner leurs fonctions administratives. C'est ce que révèle France Info. Ses chefs de service démissionnaires dénoncent l'effondrement de l'hôpital public. Ils remettront une pétition à la ministre de la Santé début janvier. Et puis le ski, l'Italien Dominique Paris s'impose en descente à Bormio. Troisième victoire consécutive sur cette piste pour l'Italien. Le Français Maxence Musaton, lui, termine cinquième.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés. Augustin Arrivé.
On a eu hier la publication au Journal officiel de la loi d'orientation des mobilités. Et parmi les mesures qu'elle contient, il y a la possibilité pour les départements qui le souhaitent de rétablir la limite de vitesse à 90 km/h sur le réseau secondaire. Ça avait été très critiqué, on s'en souvient, par les associations d'automobilistes au moment de la réduction de la vitesse. C'était il y a un an et demi maintenant. Alors précision, remettre à 90, ce ne sera possible que sur certains tronçons. Il y a des critères, notamment pas de croisement ni d'obstacle sur une distance de 10 km. Forcément, ça limite le nombre de routes qui pourront rebasculer à 90. Et c'est ce qui pose souci à Bruno Faure, le président Les Républicains du Conseil départemental du Cantal.
On voit par ces mesures et ces messages qui sont lancés depuis le début de l'été, l'État, un État qui veut effectivement nous faire peur, un État qui veut nous culpabiliser. Je me dis, de Paris, on ne connaît pas très bien la ruralité. Lorsqu'on dit il ne faut pas de matériel agricole, il ne faut pas de croisement sur 10 km. Effectivement, venez dans le Cantal, et bien vous ne passerez aucun itinéraire à 90. Et c'est certainement pas au gouvernement et au ministre de l'Intérieur à nous dire ce que nous devons faire. Mais nous, effectivement, dans le Cantal, nous allons demander à repasser la globalité de notre territoire à 90. Et il y aura des engins agricoles, il y aura des croisements, bien évidemment, sur notre réseau.
Bruno Faure, le président du Conseil départemental du Cantal, élu Les Républicains. Alors, c'est vrai que c'est assez technique, ces critères pour remettre les 90 km/h. Nasser Kétan, c'est une manière de dire on recule, d'accord, mais sans vraiment reculer de la part du gouvernement.
Ça fait partie des guerres traditionnelles en France, vous savez, autour des thématiques comme ça. Les choses doivent être posées de façon simple. Il y a des conduites dangereuses. Même à 50 à l'heure, vous pouvez avoir des conducteurs dangereux. Et à 120 à l'heure, vous pouvez avoir des conducteurs qui ne sont pas dangereux. Vous avez des routes dangereuses et des routes non dangereuses. Lorsque ça sera bien établi, peut-être qu'on pourra avancer. Et puis, ne pas oublier surtout, c'est que E égale MC2. C'est-à-dire que l'énergie avec laquelle vous impactez un obstacle, quand vous roulez même à 80 à l'heure, vous prenez la masse, vous la multipliez par la vitesse au carré, vous tuez la personne. À 70 à l'heure, quand vous touchez quelqu'un, même à 60 à l'heure, vous la tuez. Donc tout ça, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que oui, il y a des routes qu'on peut prendre à 90 ou à 100, ça doit être fait. Je crois qu'encore cette mesure avait été faite un peu par Paris en haut. Ça n'a pas été concerté au niveau local, au niveau régional, avec les collectivités locales, avec les conseils régionaux, avec les conseils généraux. Il n'y a pas eu de concertation. Parce que là, ils auraient eu des tracés où on aurait, effectivement, là, c'est 60, là, c'est 70, là, c'est plutôt 80, là, c'est plutôt 90. Plutôt que d'en faire une sorte de religion pour ou contre le 80-90. Vous voyez, donc, je crois qu'il faut beaucoup plus être dans le local, comme on vient de le rappeler, cette personne. Donc, oui, il y a des endroits où vous roulez à 80, vous vous ennuyez. Parce qu'il faut aller un peu plus vite. Et puis il y a des endroits, effectivement, rouler à 80, c'est dangereux. Parce que la route, elle n'est pas éclairée, elle est glissante. Voilà. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut essayer de mettre un peu sur la table pour trouver des mesures un petit peu...
Il y a des histoires de distance de freinage aussi qui entrent en jeu, évidemment. Le tout, c'est que le passage à 80 km/h, c'était une mesure de sécurité routière. Ce qui fait, Roselyne Fèvre, que peut-être c'est plus difficile de reculer sur ce genre de mesures. Et là, le gouvernement a dit « Ok, on cède, on peut revenir à 90, mais on se rend compte qu'il y a des critères. »
En fait, c'est le vrai faux retour des 80 km/h, parce qu'il y a un piège là-dedans. Déjà, on voit quand la réaction de ce monsieur du Cantal, c'est que il veut remettre les 90 km à l'heure. On a le sentiment que c'est parce que il est en forme de résistance contre le pouvoir central. Édouard Philippe, lui, avait imposé ça, effectivement, même si certains au gouvernement avaient compris que ça crisperait beaucoup. Lui, il voulait sauver entre 350 et 400 vies. Est-ce que ça a été le cas? Est-ce que l'expérimentation, je suis pas sûr que ça a été concluant. En tous les cas, le deal aujourd'hui, c'est ok, vous pouvez revenir sur les 80 km/h, mais vous aurez le choix entre deux choses. Soit vous cédez aux automobilistes pressés, soit vous prenez le risque d'être poursuivi pour des accidents mortels. Or, apparemment, la crainte qui plane d'être attaqué en justice parce qu'on serait responsable en ayant remis les 90 km/h reste quand même assez infondé. Mais c'est quand même un piège.
Ça peut faire peur au conseil départemental.
Mais ça peut faire peur à certains, disons, qui iront sur des œufs. Là, par peur, par crainte d'être responsable, d'être tenu responsable des morts. Donc c'est assez piégeux, effectivement. Alors, c'est une manière de dire, bon, faites ce que vous voulez, vous prenez vos responsabilités, mais en culpabilisant quand même.
Ce qui peut faire peur aussi, c'est le coût de ce genre de changement de signalisation, parce qu'il y a des panneaux à remettre en place qui ont été enlevés.
Oui, ça va créer des frais. Non pas, en tout cas, ceux des 80, ils existent encore, donc on va pas en fabriquer, puisqu'on va remettre les anciens, mais c'est vrai qu'il faudra mobiliser du personnel.
Mais Nasser Kétan, au moment où on demande à tout le monde de se serrer la ceinture, c'est un peu curieux ce changement-là, ce pas de danse.
Non, mais vous parlez des panneaux. En plus, et pour ceux qui roulent, qui prennent la voiture, vous avez vu la valse des panneaux. Vous passez de 40 à tout à coup à 60. Après, vous roulez, vous savez plus si c'est 70 autorisé ou 80. Et là, vous êtes flashé. Il y a aussi, de ce point de vue-là, aussi une mauvaise gestion des panneaux de signalisation. Donc, je pense que là-dessus aussi, c'est un peu, comme le dit Rosine, on se renvoie un peu la balle.
Et ça peut brouiller le message de ne plus savoir quand est-ce qu'on peut rouler à 80, quand est-ce qu'on peut rouler à 90.
Absolument, ça brouille complètement le message, on se déresponsabilise, et puis finalement, si ça vous arrive, ce qui arrivera, ça sera de votre faute.
Merci Nasser Kétan, directeur général de la radio Beurre FM. Merci également Sylvain Boulouk, Mensonge en gilet jaune, votre dernier livre paru le mois dernier. Vous êtes historien spécialiste des mouvements sociaux. Et puis Roselyne Fèvre, on vous retrouve sur France 24, responsable du service politique de la chaîne. Merci d'avoir suivi les informés ce soir encore. En cette période de Noël, pas d'informés le week-end, mais on se retrouve lundi à 20h. Et théoriquement, je pense qu'on parlera à nouveau de la grève dans les transports. Merci beaucoup.